Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, avis aux amateurs, aujourd'hui nous parlons de chocolat. Accueillons pour en parler donc les auteurs Jean Pruvot et Jacques Pessis, bienvenue à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Jacques Pessis, vous avez écrit le petit roman du chocolat aux éditions du Rocher. Jean Pruvot, vous avez écrit Le Chocolat avec Nicole Cholefka chez Honoré Champion. Alors nous savons, Jacques Pessis, que vous êtes un grand amateur de chocolat puisque vous êtes le président du club des croqueurs de chocolat. Un grand club très fameux, qui a beaucoup de goût. Et donc, nous vous savons un grand amateur de chocolat. Est-ce que vous aussi, Jean Pruvot, vous êtes amateur de chocolat ?
Oui, je suis amateur de chocolat.
Parce que vous êtes plutôt amateur des mots.
Oui, mais alors, enfin, si dans ces mots, on n'a pas le chocolat de préférence, ça ne va pas du tout.
Hein. Jacques Pessis, pourriez-vous nous parler du club des croqueurs de chocolat ? Et d'où vous vient ce goût pour le chocolat ?
Ben parce qu'on a tous un goût dans l'enfance pour le chocolat. Je suis resté un grand enfant et c'est vrai que ça fait partie des bonheurs de la vie. Quand on ne boit pas, quand on ne fume pas, ben on aime le chocolat. Alors le chocolat noir, bien sûr. Le chocolat au lait, ça peut s'accepter aujourd'hui parce qu'il est bon. Le chocolat blanc, non.
Car ce n'est pas du chocolat.
Ah ben non, c'est ce qu'on enlève justement du beurre de cacao pour faire le chocolat. Et c'est vrai que ce club des croqueurs de chocolat est né par hasard au cours d'un dîner, voici plus de 30 ans. C'est-à-dire que 4 personnes dînaient ensemble et tous demandent un dessert au chocolat à la fin. Et on s'est aperçu qu'il y avait un point commun, justement, de passion dans le chocolat. Et ce club a été créé à l'image du club du vin pour déguster du chocolat, sans penser que ça marcherait. Et 30 ans après, on est une institution tellement reconnue qu'il ne se passe pas de mois sans qu'un ministre ou un député m'appelle en me demandant des conseils par rapport au chocolat artisanal, qui est devenu aujourd'hui en France quelque chose d'important, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans.
Vous recevez même des personnalités, les nouveautés des grands meilleurs ouvriers de France notamment ?
Ah ben ça régulièrement, on reçoit du chocolat, mais du chocolat de qualité, donc le foie le supporte très bien. Et on se réunit pour tester ces chocolats. Et plusieurs grands chocolatiers nous ont dit que les palais des amateurs que nous étions, nous sommes environ 150, étaient très importants pour eux parce qu'ils se rendaient compte si un chocolat était de qualité ou non et le défaut d'un nouveau bonbon de chocolat. Donc on aide indirectement cet artisanat à prospérer.
Alors il paraît que le chocolat favorise la paresse et dispose à ces voluptés qu'inspire une vie langoureuse. Tel est le sous-titre de votre livre, Jean Pruvot.
Oui, c'est tiré effectivement des dictionnaires anciens puisque le parcours chocolaté commence avec nos premiers dictionnaires en 1680 et puis s'enrichit au XVIIIe siècle avec l'encyclopédie et ensuite au XIXe siècle avec toutes sortes d'ouvrages dont le dictionnaire de la conversation. Et effectivement, ce personnage viré, médecin, V-I-R-E-Y, disait le café opère au cerveau, le chocolat vers les organes reproducteurs. Et donc
ah bon
il opposait effectivement le café et le chocolat et en donnait toutes sortes de choses surprenantes. C'est-à-dire que tout au long de nos dictionnaires, on voit à la fois le chocolat mis en relief, mis en valeur, pour des qualités même qu'on oublie aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, attention, il y a aussi des excès. Et donc Viré était du côté des excès. Et il se trompait, bien entendu.
Quels excès ?
Il était tout à fait convaincu que trop de chocolat pouvait nuire à l'organisme. Mais il y avait aussi l'idée, et c'est ce que j'essaie de mettre dans l'ouvrage, qu'il y avait des chocolats frelatés aussi, ce qui n'existe plus.
Oh, ça existe encore.
Encore
hein.
Un peu.
Non,
bon.
Ça existe encore.
En Russie, en Chine, on a goûté des chocolats chinois et russes, et je peux vous dire que c'est pas... ça sent le frelaté. Hein.
Bon. Et alors, on a aussi tous les écrivains qui sont là, récupérés dans nos dictionnaires. Et celle qui m'a vraiment fait plaisir, c'est une formule d'André Gide, qui dit dans Feuillet, c'est en 1918... Il est bon pour l'éducation de l'enfant que par quelques perturbations familiales, son chocolat de temps à autre soit renversé. La peur de ne plus avoir du chocolat du tout est salutaire. Vous voyez, avoir de chocolat, c'est ce qui est de pire.
On ne peut pas vivre sans chocolat. Non mais, il y a une chose exacte dans ce que dit monsieur, c'est-à-dire qu'effectivement, le chocolat possède des corps qui régénèrent le cerveau. Des grands nutritionnistes l'ont démontré il n'y a pas longtemps. Alors la quantité, oui, parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Les gens qui disent « Oh, j'ai mangé une tablette de chocolat en une soirée », c'est ridicule. C'est la qualité qui compte. Et le bon chocolat est celui qui contient un pourcentage suffisant de cacao, sans être trop important, et qui ne contient pas trop de sucre. Et effectivement, quand il y a trop de sucre dans le chocolat, oui, ben on tombe malade.
Voilà. Et alors, vous racontez, Jacques, des anecdotes dans votre livre, et notamment tous les excès également qui peuvent arriver quand on a un trop grand amour du chocolat. On va même jusqu'à le voler.
Ah oui, mais ça peut arriver. Moi, au début du club des croqueurs de chocolat, j'avais repéré une des dames qui faisait partie du club, mais elles ont disparu depuis, donc il y a prescription.
Des dames ?
Des dames, oui. On ne dit pas des demoiselles ou des madames, comme dit Roselyne Bachelot. Non, des dames qui avaient un sac à double fond. Et elles partaient à la fin de la dégustation avec les chocolats dans le double fond pour les conserver.
Ah, c'est original !
J'ai même vu une dame qui faisait des cocktails parisiens à mes débuts de journaliste, comme ça, avec son mari. Ils avaient un journal soi-disant gastronomique qui n'existait pas. Donc, ils étaient invités partout et ils avaient ce sac à double fond où ils emportaient les petits fours et les chocolats et se nourrissaient de ça. Et un jour, je suis allé chez eux d'ailleurs et j'ai vu tous les souvenirs des cocktails qui étaient là, qu'ils avaient subtilisés. Alors, c'est comme ça que je suis devenu vice-président du club des croqueurs de chocolat en courant après les vieilles dames pour les empêcher de voler les chocolats et qu'ensuite j'ai accédé au poste suprême.
Oui, parlez-nous, Jean, des habitudes d'Alexandre Dumas ou de la comtesse de Sévigné. Ah,
exactement. Alors, du côté de la santé, Alexandre Dumas, dans ce fameux grand livre de la cuisine, qui est un des tout premiers d'ailleurs à montrer que le sel et le chocolat font bon ménage avec la macreuse et sa sauce au chocolat. Et il disait, notamment donc en 1873, « Quand je me trouve dans quelqu'un de ces jours où le poids de l'âge se fait sentir, où l'on pense avec peine et où l'on se sent opprimé par une puissance inconnue, je mêle avec une forte tasse de chocolat, gros comme une fève d'ambre pilée avec du sucre, et je m'en suis toujours trouvé à merveille. Au moyen de ce tonique, l'action de la vie devient aisée, la pensée se dégage avec facilité. » Donc vous voyez, le chocolat est là pour nos écrivains.
Ouais. Il faut manger du chocolat.
Oui, et ce chocolat n'est pas le même que celui qu'on consomme aujourd'hui. C'est-à-dire jusqu'aux années 70-80, c'était un chocolat, vous voyez, le chocolat de ménage qu'on achetait chez son commerçant habituel. Et les produits n'étaient pas aussi frais, pas aussi bons, pas aussi dosés. Donc ce que buvait Alexandre Dumas, ça correspondait à peu près à ce que buvait la marquise de Sévigné, et même au temps des Aztèques ou Anne d'Autriche. C'était un chocolat de qualité, mais souvent beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, et pas sucré.
Est-ce que le chocolat français peut rivaliser avec le chocolat suisse et belge ?
Alors clairement, il y a 30 ans, on était des minables. Aujourd'hui, on est les rois du monde de ce côté-là.
D'accord.
C'est-à-dire que le chocolat français est reconnu dans le monde entier comme le chocolat numéro un, plus fort que le belge ou le suisse, à tel point qu'au Japon, Jean-Paul Évin, qui est un artisan français, il a une boutique à Tokyo, il faut jusqu'à 6 heures pour obtenir 6 heures d'attente pour accéder à la boutique pendant la période des fêtes. Et les Japonais sont fous de chocolat. Nous, on a repéré cette année deux chocolatiers japonais qui s'installent en France, qui sont absolument sublimes. C'est-à-dire que le chocolat français est en train de s'implanter totalement en Asie et de devenir un must.
Mais pourtant, on ne fait pas la queue en France pour acheter du chocolat. Est-ce que c'est possible qu'on fasse la queue pour acheter du chocolat ?
J'ai vu des photos, 6 heures d'attente à Tokyo, je n'invente rien.
C'est incroyable.
Mais c'est aussi pour ça que ce livre, Le chocolat, avec ce sous-titre hein, qui favorise la paresse et dispose à ses voluptés, comme vous l'évoquiez, eh bien, c'est à Patrick Roger, avec qui j'avais lié amitié, qu'on a confié la préface. Et il dit des choses très belles. « J'ai longtemps cru que je devais mes créations à mes mains qui travaillaient, qui façonnaient ce chocolat et lui donnaient sa vie gustative et artistique. Mais depuis quelque temps, j'ai compris que même sans les mains, je le travaillerais. J'ai pris conscience que c'était bel et bien mon cerveau qui pilotait et qu'en réalité vive pour le chocolat, c'était d'abord le penser. » Et je crois que c'est très juste, c'est-à-dire que ce qui fait la force du chocolat français, c'est peut-être ça. Maintenant, les autres chocolats sont aussi très très bons, hein, bien entendu.
Ça n'a rien à voir. En Belgique, il a été beaucoup moins bon qu'avant parce qu'il y a maintenant, avec l'affaire des matières grasses végétales, beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Les artisans sont excellents, les industriels, leur cote a baissé. En Suisse, c'est différent car le lait est différent. Et quand on dit qu'effectivement, Patrick Roger travaille avec le cerveau, beaucoup de chocolatiers arrivent chaque semaine avec des créations totalement insolites. Alors, il y a du très bon, il y a du très mauvais. Certains fruits assortis au chocolat, c'est pas bon. Le fromage dans le chocolat, j'ai déjà goûté ça. Je vous le recommande pas, sauf à votre meilleur ennemi. Donc, il y a de tout et il y a un progrès considérable. Mais il y a de plus en plus d'artisans chaque année qui réussissent des mélanges parfaits et qui ont une clientèle de plus en plus importante, qui n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour du bon chocolat. Ce qui n'est pas évident en ces périodes difficiles.
Les habitudes changent, les coutumes aussi. Est-ce qu'on terminerait sur un proverbe ou une citation, Jean ?
Oh, bah peut-être la marquise de Sévigné que vous évoquiez tout à l'heure. « Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes. » Mais le chocolat, c'est vrai que c'est un lien entre les êtres. On a eu foutite et chocolat, c'était un lien aussi d'humour. Et c'est quand même quelque chose de délicieux. Et on peut tous être croqueurs de chocolat, et ce club a bien raison d'exister. Hein.
Ouais, c'est...
Ce que j'ai aussi voulu mettre, c'est des illustrations. Et je crois que le chocolat s'illustre aussi magnifiquement.
En tout cas, je vais retenir ces formules. Puisqu'on parle de chocolat, je vais les noter sur mes tablettes.
Merci beaucoup
à tous les deux. Alors n'oubliez pas Le Chocolat, paru chez Honoré Champion, et Le Petit Roman du Chocolat, paru aux éditions du Rocher. Alors, bonne dégustation à tous.
Thank you.